Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vivant l'émission, un programme consacré à l'actualité et aux initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Une émission préparée par la rédaction de Vivant le Média et diffusée chaque premier vendredi du mois sur les ondes de nos radios partenaires, Radio Pulsar à Poitiers, Radio Agora à Montmorillon, Radio Gâtine à Parthenay et Aux Ondes à Châtellerault. Pour notre séquence reportage, cap sur la couture. Créer des objets durables tout en tissant du lien, c'est l'objectif des ateliers de couture solidaire organisés par la Maison des Jeunes et de la Culture Claude Nougaro à Montmorillon, en Vienne. Chaque mercredi matin depuis un an, une dizaine de bénévoles fabriquent des accessoires utilitaires, comme des sacs de course, à partir de tissus recyclés. Ils sont destinés aux bénéficiaires de Mon Épicerie, l'épicerie solidaire de la MJC. Une démarche à la fois écologique et sociale, puisque cet atelier de couture sert aussi de levier d'insertion pour les participants et participantes. Tout de suite, interview d'Élise Berthelot, accompagnatrice sociale au pôle solidarité de la MJC.
Donc c'est une initiative qui est partie d'une bénévole de l'épicerie, qui était aussi une famille accueillie sur l'aide alimentaire. Elle s'est dit, tiens, si on crée un atelier de couture pour fabriquer des sacs de course pour les clients de l'épicerie. Puisqu'en fait, on utilisait des sacs papier craft classiques. Et c'est vrai que écologiquement, c'est pas top. Donc c'était l'idée de pouvoir en créer avec des tissus recyclés, lavables, et de pouvoir les distribuer aux familles. Donc c'est ce qu'on a fait l'année passée. L'année passée, on a créé environ 300 sacs qu'on a distribués et qui sont toujours en cours de distribution. Dès qu'on a une nouvelle famille, en fait, on a un petit stock d'avance pour pouvoir les donner tout de suite. Et c'était notamment pour stocker tout ce qui était fruits et légumes. Parce que les gens viennent avec leurs sacs classiques, mais pour les fruits et légumes, il nous manquait un petit peu de sacs. Donc c'est de là que c'est parti. Et en fait, une fois que le groupe s'était bien constitué, on était une dizaine, on s'est dit, on a fini les sacs et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ce groupe? Est-ce qu'il s'arrête? Et tout le monde avait envie de continuer. Et donc, on s'est dit, on va créer des petits objets du quotidien qui ne nécessitent pas trop d'achat, puisqu'en fait, tout est à partir de recyclage, de tissus recyclés, ou de boutons aussi qu'on trouve soit sur des vêtements, soit qu'on récolte dans les diverses associations de Montmorillon qui nous aident, notamment Croix-Rouge et Secours Populaire qui nous font des dons pour l'atelier couture. Mais on essaye vraiment d'acheter le moins possible pour créer des petits objets du quotidien. Donc, ça peut être des lingettes démaquillantes, des étuis à lunettes, des porte-cartes, Tout ça qui ne nécessite en fait pas de matériel en plus. Et là, on a créé pour le mois de septembre et octobre un groupe qui s'est élargi pour la campagne Octobre Rose qu'on fait en partenariat avec la ville de Montmorillon. Donc chaque année, la ville organise des actions autour d'Octobre Rose. Et donc nous, on a proposé de coudre des Lovely Bags pour l'association Lovely Solidarity.
Et en quoi consistent ces sacs pour la campagne Octobre Rose ?
Alors en gros, ce sont des sacs en fait qui permettent de cacher les drains médicaux. C'est ce qui évacue les sécrétions du corps pour les personnes qui ont été opérées. Alors à l'époque, quand ça s'est créé, c'était plutôt pour les femmes opérées du cancer du sein. Aujourd'hui, c'est en train de se démocratiser à d'autres services dans les hôpitaux, notamment pour les services urologie, tout ça. Et donc on s'est dit, dans le cadre d'Octobre Rose, ça pourrait bien coller de faire ces sacs. On s'est pas mis d'objectif de nombre pour cela. En fait, on va voir au fur et à mesure combien on en fera. On se donne 2 mois. Et ça, c'est quand même une super initiative à la fois solidaire, locale. Et c'est des femmes qu'on... Je ne sais pas si on va pouvoir les rencontrer directement, mais en tout cas, il y aura une petite attention dans chaque sac pour qu'elles puissent savoir qui les a cousues et d'où ça vient.
Voilà. Pas de précipitation. Ah tapis de fil de canette.
Ça arrive à refaire. Toujours, on recommence.
Aujourd'hui, on est avec une dizaine de participants et participantes. Il n'y a pas que des femmes, c'est à noter. Quel est le profil un petit peu des personnes qui viennent participer à ces ateliers ?
Alors, on a 2 profils différents. On a des bénévoles retraités qui, viennent soit déjà au quotidien dans ce groupe-là, qui sont aussi parfois bénévoles à la partie épicerie, qui viennent donner du temps quotidiennement pour faire fonctionner une épicerie solidaire. Et on a des bénévoles qui sont venus exprès pour Octobre Rose. Donc, eux, on va les avoir sur 2 mois. On ne sait pas s'ils resteront après, on verra avec eux. Et ensuite, on a des bénévoles en insertion. Donc, en fait, ce sont des familles qui ont été accueillies à l'épicerie à un moment donné, qui peuvent l'être encore pour certains, ça dépend, et qui, en fait, ont eu envie de s'investir. C'est un peu une façon de rendre aussi l'appareil. On les a aidés à un moment donné, et maintenant, c'est à leur tour d'aider aussi. C'est vrai que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on n'est pas obligé de savoir coudre pour venir. On peut nous aider à découper. Il y a toujours du petit travail à faire, de petites mains en plus de la machine. C'est ouvert vraiment aux débutants aussi. Si on a envie d'apprendre, on peut venir. Ce n'est pas un cours, comme je le dis, je ne suis pas prof de couture. Mais voilà, on peut enseigner les bases de la machine. Et c'est vrai qu'il y a une mixité en genre, mais il y a aussi une mixité d'âge. C'est vrai qu'on a tous les âges. Et c'est hyper agréable parce que du coup, on sent qu'il y a un échange, on sent que voilà, ça papote, ça, voilà, en fait, on vient chercher aussi du lien, je pense, dans cet atelier.
Fabrice, bonjour.
Bonjour.
Ça fait longtemps que vous avez rejoint cet atelier de couture ?
Ça fait quelques mois déjà.
Et vous faisiez déjà de la couture avant ?
Alors moi, je ne suis pas couseur, je suis dessinateur et découpeur. La couture, pour l'instant, on a essayé de m'y mettre, mais la machine, on n'est pas copains pour l'instant. Non, pour l'instant, je n'ai pas fait de couture.
C'est comment l'ambiance à ces ateliers, chaque mercredi ?
C'est une journée de détente pour moi, disons, une matinée de détente. Ça crée un lien incroyable parce que bon, on rencontre différents gens, puis de différents âges, et puis tout le monde s'entend très bien. Voilà, c'est ça, exactement ça. On rigole, voilà. Tout se passe bien.
Alors, vous allez continuer à participer à ces ateliers à l'avenir ?
Ah oui, tout à fait, oui. Tant que ça existera, oui, je continuerai, oui. Et tant que j'en aurai la possibilité, oui, tout à fait.
Les intérieurs, tu fais en entier, et ici, tu démarres à 7. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, là, on couche ça. Voilà. C'est vrai, je me rappelle maintenant.
Et vous, Jeannette, vous êtes anciennement bénéficiaire de l'épicerie solidaire Mon Épicerie, toujours à la MJC de Montmorillon. Qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint cet atelier couture ?
Pour me rendre utile, parce que je suis aide-soignante de formation, j'ai travaillé longtemps et entre-temps, je suis tombée malade.
Donc cette opération Lovely Bag autour de la prévention du cancer du sein, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement ?
Particulièrement parce que je suis en phase de rémission de cancer. Ça me touche particulièrement. C'est pour ça que j'ai fait plus de 40 découpes. Hein. Je m'y mets à fond parce que je sais ce que ces femmes traversent. Sachant d'où je viens, je sais ce que ces femmes traversent. Me retrouver en train de faire ça pour elles, c'est vraiment un honneur pour moi. Je peux dire que c'est une chance que j'ai de rendre aux gens ce qu'on m'a donné.
Place maintenant à notre chronique d'actualité. Quelles images avez-vous en tête quand vous pensez aux conséquences du dérèglement climatique ? Manhattan et Jakarta les pieds dans l'eau ? Le bush australien en flammes ? Hawaï balayé par des cyclones ? Malheureusement, ces scénarios sont probables. Mais quand on pense aux territoires vulnérables, ce n'est pas forcément la France qui nous vient immédiatement en tête. Grave erreur. L'Hexagone, comme l'Europe entière, subit et subira les effets de la nouvelle donne climatique. C'est en tout cas ce que nous rappelle un rapport publié le 19 septembre par le réseau Action Climat. En une cinquantaine de pages, l'ONG dresse un panorama des répercussions du dérèglement climatique sur la France. Elle nous permet de nous projeter région par région en faisant la synthèse de la littérature scientifique existante. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport ? Déjà, préparez vos palmes et vos tubas parce que les façades maritimes françaises sont toutes menacées de submersion. Si l'ensemble du territoire est vulnérable aux inondations, le Nord l'est encore plus, comme le démontrent les récentes inondations au Pas-de-Calais l'hiver dernier. La montée des eaux, elle, menace directement certaines plages des côtes atlantiques et méditerranéennes, sans oublier les villes côtières, comme Saint-Malo. L'île d'Oléron risque même de disparaître totalement. Autrement, les villes deviendront de plus en plus chaudes, et les événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses. Ce sera le cas des feux de forêt, majoritairement dans le sud, le centre et l'est du pays. Cerise sur le gâteau, les sécheresses et les tensions autour de l'eau augmenteront elles aussi sur l'ensemble du territoire. Bref, de quoi faire peser une sacrée menace sur les humains, le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Voilà pour un très rapide résumé de la situation d'ensemble. Et du côté de la Nouvelle-Aquitaine alors ? Eh bien, comme on a la région la plus vaste de France, elle est composée de territoires divers, et donc de risques tout aussi variés. Des risques qui font déjà, malheureusement, partie de la réalité. Oui, actuellement, 69% de la population régionale est déjà exposée à au moins un aléa climatique. Sur le podium des menaces, c'est la sécheresse qu'on retrouve en tête. La faute aux étés de plus en plus chauds et avares en pluie qu'on enchaîne. Est-ce que vous vous rappelez 2022 ? C'était l'année la plus chaude jamais enregistrée dans la région. Souvenez-vous, le mercure a dépassé les 30 degrés pendant plus de 70 jours, et une sécheresse record a débuté au printemps et duré plusieurs mois. Eh bien, ce type d'été va malheureusement devenir la norme si les émissions de gaz à effet de serre poursuivent leur trajectoire actuelle. Bien sûr, ce serait dévastateur pour la Nouvelle-Aquitaine, qui est la première région française, mais aussi européenne, pour la valeur de sa production agricole. Et qui dit sécheresse, dit aussi facilitation des départs de feu en forêt, et tension autour de la ressource hydrique. Les conflits autour de l'eau menacent aussi de s'intensifier, entre l'usage agricole et domestique, mais aussi avec l'industrie et la production d'énergie. Et puis, une autre conséquence des sécheresses à laquelle on pense moins, c'est l'augmentation des risques de retrait-gonflement des argiles. Sachez qu'un tiers des maisons sont déjà exposées à ces mouvements de terrain dans la région. C'est colossal. Côté océan, pour donner le ton, 43 communes sont concernées par l'érosion en Nouvelle-Aquitaine. Et la Charente-Maritime est le deuxième département de France où le trait de côte recule le plus. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment se préparer à ces risques et tenter de les diminuer ? D'après le réseau Action Climat, il est urgent d'agir sur l'aménagement pour réduire les îlots de chaleur en ville. Il faut aussi raisonner les usages de l'eau pour prévenir les sécheresses. Dans ces différents axes, les solutions fondées sur la nature sont à privilégier. Évidemment, c'est aussi crucial de freiner dès à présent les émissions de gaz à effet de serre. Pour mener à bien tous ces changements, les collectivités auront également un rôle très important à jouer. Pour vous donner une idée, d'après l'Institut de l'économie pour le climat, les collectivités devraient investir un montant total de 19 milliards d'euros par an d'ici à 2030 en faveur du climat, pour être à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de demain en la matière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du chemin à faire, car c'est plus du double de l'investissement actuel. Et tout de suite, en bref, un petit tour de l'actualité de la transition écologique et sociale locale. Vous connaissez sans doute la Grande Muraille de Chine, mais avez-vous déjà entendu parler de la Grande Muraille verte ? Ce vaste projet de reboisement du Sahel a été initié par l'Union africaine en 2008. L'objectif ? Créer une bande végétale de 15 km de large sur 7600 de long qui traverserait les 11 pays du Sahel. Pour en savoir plus, rendez-vous le 11 octobre à 18h30 au domaine de Givray, à Ligugé, en Vienne, pour une conférence gratuite organisée dans le cadre de la Fête de la Science 2024.
En premier lieu, s'il y a une seule chose à retenir pour comprendre pourquoi la mode pollue, c'est que ce qui pollue, c'est notre dépendance aux énergies fossiles, donc le charbon, le gaz et le pétrole. Le charbon et le gaz sont les énergies utilisées dans les pays qui produisent la mode pour le monde. L'autre usage massif, c'est celui du pétrole. Donc, en gros, 75% de nos vêtements sont fabriqués à partir de pétrole.
Vous venez d'entendre Victoire Sato, la fondatrice du média de mode responsable The Good Goods. Celle-ci animera un format grande interview avec le journaliste Hugo Clément, le 7 octobre, au Théâtre Auditorium de Poitiers. Un échange autour des conséquences de la fast fashion et des solutions pour se vêtir plus durablement qui aura lieu en préambule du Festival de la mode responsable du 19 au 21 octobre, toujours à Poitiers. C'est l'histoire d'un couple de bricoleurs passionnés par la nature qui s'engagent dans une lutte contre la perte du vivant en tentant de figer les beautés de leur ferme du sud des Deux-Sèvres. Cette histoire, c'est celle que met en scène l'inventaire d'un monde à perdre, une pièce de Vanessa Jussaume. Les deux représentations auront lieu le 19 octobre, une à 15h et une autre à 17h, à la médiathèque de Secondigny, dans les Deux-Sèvres. Le spectacle est gratuit, mais avec un nombre de places limité. Pour vous inscrire, appelez le 05 49 95 84 83. Votre association porte un projet à fort impact social et environnemental et comporte au maximum 2 salariés ? Eh bien, bonne nouvelle, vous pouvez candidater au fonds de dotation des ateliers du bocage. Cette coopérative d'insertion, membre du réseau Emmaüs, relance son coup de pouce solidaire, qui permettra de récompenser 5 associations à hauteur de 2000 euros chacune. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 octobre. Retrouvez tous les détails de l'appel à projet sur atelier au pluriel -du-6-bocage.fr dans la rubrique Actualité. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une proposition de la rédaction de Vivant Le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages et interviews, écrits et radio, sur vivant-le-media.fr. Et si vous souhaitez nous contacter pour nous faire parvenir des infos et actualités en lien avec notre ligne éditoriale, voici l'adresse mail où nous écrire contact@vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le vendredi 1er novembre pour une prochaine émission. Et d'ici là, prenez soin de vous et de la planète.